midi et demi, vous êtes toujours sur RCJ, c'est l'heure de l'invité politique. Nous avons le plaisir de retrouver ce jeudi Guy Geoffroy. Guy Geoffroy, bonjour.
Bonjour.
Rebonjour, vous êtes député Les Républicains de Seine-et-Marne et vous êtes membre du jury du prix des députés de la journée du livre politique. Et c'est pour cela que nous avons le plaisir en studio aux côtés de Philippe Méchet que nous saluons. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Luce Perrault, Luce, bonjour.
Bonjour.
Et si vous êtes avec nous, c'est que votre journée du livre politique soufflera ses 26e bougie demain, après-demain, samedi, dès 9h30 à l'Assemblée nationale. On parlera de tous les aspects pratiques après. Mais si Guy Geoffroy est en studio avec nous, c'est qu'il collabore activement aussi à votre journée.
Mais oui, nous avons créé, grâce à Jean-Louis Debré, en l'année 2002, un prix des députés. Et bien, Guy est depuis le début de cette création, membre de ce jury, et nous nous en félicitons.
Qu'est-ce que c'est pour un député que de participer, d'être membre du jury du prix des députés?
Alors,
ça consiste en quoi déjà?
C'est un honneur et c'est un bonheur. Ça consiste en quoi? Ça consiste, et c'est une douce charge qui s'ajoute à toutes les autres, à se saisir, à la demande toujours bienveillante de Luce et de son équipe, d'un nombre très important d'ouvrages. Qui nous sont proposés à la lecture pour que, au fur et à mesure de nos lectures et de nos réunions, nous nous réunissons 4 ou 5 fois sur l'ensemble de la saison, nous puissions procéder à des choix par élimination dans un premier temps, et ensuite, et c'est ça qui fait le grand bonheur de cette opération, et cette année encore plus manifestement que les années précédentes, la décision, non pas par élimination, mais par choix, et nous avons eu, lors de la dernière réunion de notre jury, il y a quelques jours, donc, bien évidemment, je ne trahirai pas le secret du résultat, il y a eu des échanges, plus que des débats, de vrais échanges entre nous tous, parlementaires de toutes les générations, de toutes les origines, de tous les bords politiques, d'une très grande richesse, qui ont permis donc ensuite que, par nos votes, nous départagions les 3 finalistes, tous 3 de réelle et formidable qualité, pour faire que cette année encore, mais peut-être plus particulièrement en cette année qui est différente, puisque c'est une année électorale de surcroît un peu particulière, nous avons pu faire un choix qui, même de la part de ceux qui ne l'avaient pas formulé en première position, a été acté par le jury comme étant un vrai choix positif, un vrai choix important, et qui fera date. Le livre politique, le prix des députés, c'est la reconnaissance, par ceux qui sont les représentants du peuple, de la qualité et de la portée d'ouvrages dont nous estimons qu'ils sont essentiels, que nos concitoyens doivent s'en saisir et qu'ils font surtout référence pour continuer à donner de la vie publique, qui est indispensable dans toute démocratie, le meilleur d'elle-même et la meilleure des images qu'on puisse en attendre par les temps qui courent, que la vie publique est une image respectable, respectée et forte de valeur, c'est quelque chose à laquelle nous sommes extrêmement attachés.
Vous parliez, Guy Geoffroy, de la richesse des échanges que vous avez eus avec vos collègues du Palais Bourbon. Quelle est la nature de ces échanges et pourquoi sont-ils peut-être plus riches que d'autres échanges que vous pouvez avoir tout au long de l'année parlementaire? Parce que là, vous êtes dans l'idée, dans le commentaire politique, le regard extérieur sur finalement ce que vous faites, vous.
Alors, le regard n'est pas si extérieur que cela, puisque nous sommes au plein cœur de tous les sujets qui sont évoqués d'une manière ou d'une autre, avec des entrées très différentes les unes des autres dans tous ces ouvrages. Donc nous sommes à la fois des observateurs et des analystes, mais à la fois des acteurs. Bon, et ce qui fait la superbe richesse de tous ces échanges, c'est justement qu'elle se fait non pas dans le nécessaire débat qui quelquefois débouche sur de la caricature de débat, mais sur la base de tout ce que nous ressentons profondément, de tout ce que nous analysons profondément, parce qu'il y a ce qu'on ressent et puis il y a ce que l'on analyse qui est plus objectif, mais qui doit être contrebalancé par ce que nous ressentons. Et c'est vrai que le fait que chacun, l'un après l'autre, et tout en continuant bien sûr à dialoguer pour que ça ne soit pas unilatéral, et avec l'aimable et toujours bienveillante complicité de Luce, hein, ces échanges sont libres, puissants, sincères, parce qu'ils ont comme objectif de faire partager tout ce que nous avons ressenti et tout ce que nous estimons important dans chaque ouvrage, pour que le choix de chacun, in fine, soit le plus entier possible. Hein, que ce soit un choix correspondant non seulement à nos convictions, non seulement à la qualité que nous avons trouvée dans les ouvrages, mais surtout que ce soit un choix porteur de valeur et porteur du message selon lequel le livre politique n'est pas un gadget, mais est une nécessité absolue dans une démocratie forte et dans une république qui s'assume.
Et d'autant plus par les temps qui courent, comme vous le soulignez. Luce, 26 ans de 26e édition donc de cette journée.
Et 26 ans de journée du livre.
Et 26 ans de journée du livre, évidemment. Rappelons l'idée pour chacun de nos auditeurs, ce sont des rencontres, des tables rondes, des signatures et différents prix. Nous parlons avec notre invité Guy Geoffroy du prix des députés, mais il y en a d'autres.
Il y a le prix des journalistes, qui est le prix du livre politique. C'est pareil, le jury est composé de la même manière de journalistes de tous les horizons, de toutes les formes de médias, tous les supports possibles. Et ça se passe dans vraiment l'échange avant tout. Et je crois que c'est ce qui est intéressant dans ces journées, c'est que c'est un moment d'échange pour tous. Et dans les réunions que nous avons avec les journalistes, dans les réunions que j'ai avec les députés, l'important c'est cette analyse, cette réflexion sur ce que reflète la production de l'année. Et ça c'est vraiment, je crois, fondamental. Parce que si on ne se donne pas le temps de la lecture et le temps de la réflexion, je ne sais pas comment on peut pratiquer la politique.
Vous êtes satisfaite, Luce Perrot, du cru à venir pour cette année 2017?
Le cru, on avait une très excellente production, je dois dire. Les échanges ont été très nombreux, même hors réunion, les gens continuaient à discuter, parce que ça a été très 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 difficile de choisir. Alors le prix des députés, Nous connaissons le choix. Le prix des journalistes, nous ne connaissons pas le choix, puisque nous nous réunissons samedi matin même au sein de l'Assemblée nationale pour choisir. Je ne peux vous parler que des finalistes. Et il y a un autre prix ensuite, c'est le prix étudiant. Sous la houlette de France Culture, nos confrères radio, et de Thierry Mandon, qui est ministre chargé, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous avons créé il y a 2 ans ce prix étudiant, et je trouve que c'est un... Là aussi, c'est toujours le débat, la confrontation, l'analyse. C'est très intéressant de voir que ce qui intéresse les étudiants qui ont tous moins de 22, 23 ans, n'est pas ce qui intéresse les journalistes, mais se rapproche davantage de ce qui intéresse les députés. Ils ont 2 livres en commun. C'est ça qui est étonnant. Il y a peut-être un jury plus proche de l'air du temps, de l'actualité, qui est plus sensible aux choses de l'immédiat, et 2 jurys qui sont plus dans la réflexion et dans le ressenti du vécu des Français.
Est-ce que lire la politique permet de mieux comprendre la politique?
Ça me semble essentiel si on revient à la définition même de la politique. Ça peut pas. Je pense que le livre a été le moyen, le support de la démocratisation de la vie publique, merci la Révolution française, l'accès à l'éducation pour tous, merci Jules Ferry, merci tous les grands ministres de la Troisième République qui ont fait de l'éducation nationale l'accès à la lecture pour tous. Moi, je me souviens d'avoir lu, quand j'étais adolescente, des témoignages de députés ou d'écrivains dont les parents ou les grands-parents n'avaient pas accès à la lecture. Vous imaginez ce que c'est, une vie sans pouvoir décrypter ce qui vous entoure ? C'est terrible. Donc, merci la République d'avoir donné accès à la lecture et grâce à cela, à une meilleure connaissance de la société dans laquelle on vit, des problèmes qui se posent, et peut-être avoir des moyens de réflexion et les moyens aussi de prendre de la distance avec l'actualité aujourd'hui. C'est très important à l'heure des réseaux sociaux de pouvoir prendre ce temps de réflexion, ce temps d'analyse et de ne pas être dans la dictature de l'urgence.
Et pour mieux comprendre tout cela, s'y frotter d'un peu plus près pour mieux la décrypter, c'est donc tout ce que vous proposez, Luce Perrot, avec votre journée du livre politique qui débutera à 9h30 ce samedi, après-demain à l'Assemblée nationale. On répétera évidemment toutes les infos pratiques après, parce que je propose à Philippe Méché qu'on parle un peu de politique.
C'est intéressant en ce moment.
Vous intervenez quand vous voulez, Luce, on laisse votre micro.
On va rejoindre le plancher des vaches.
Philippe, je vous laisse le micro.
Eh bien, bonjour à tous et bonjour Guy Geoffroy. Donc, je rappelle que vous êtes député maire de Seine-et-Marne. Par ailleurs, vous êtes président des éco-maires, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est sur les questions d'environnement. On pourra peut-être y revenir parce que souvent, on n'associe pas spécialement environnement et droite, peut-être à tort, et vous nous l'expliquerez d'ailleurs pourquoi. Alors, évidemment, première question qui est une question très liée à l'actualité, comment on fait campagne en ce moment quand on a soutenu Fillon ? Et quand on soutient Fillon, excusez-moi.
Oui. Vous avez rectifié avant que je ne le fasse. Comment on fait campagne ? Ben, du mieux possible. Vous savez, la campagne, ce n'est pas uniquement ce que tous les médias, dont le vôtre, en font. La campagne, c'est également le contact quotidien en très grande proximité avec l'ensemble de nos concitoyens. Ce contact, aujourd'hui, existe. Il est un peu plus délicat, quoique... Il ne faille pas avoir le sentiment que toutes les portes sont fermées à notre campagne du fait de tout ce qui se passe et de tout ce qui est dit et véhiculé depuis quelques semaines. Bon, c'est vrai que sur les ondes, nous sommes moins maîtres du jeu dans la mesure où les ondes appartiennent à ceux qui les animent et où, bien évidemment, les choix qui sont faits sur les lignes éditoriales par tous les médias sont leurs choix et que il s'impose à nous d'une certaine manière. Bon, cette campagne est originale, elle est particulière, elle est délicate, elle est par certains côtés pour nous aujourd'hui un peu plus difficile et un peu plus douloureuse, mais c'est une campagne où les gens engagés, impliqués, convaincus que nous sommes, trouvent peut-être de nouvelles forces pour
ça, il en faut en ce moment.
Tout faire pour que nos messages reprennent à nouveau toute l'ampleur qu'ils avaient à une certaine époque. Moi, j'ai été frappé. Et là, je le dis avec beaucoup de tranquillité au monde de la presse que vous êtes. J'ai été frappé de l'amour fou qu'éprouvaient les journalistes pour François Fillon au moment où eux-mêmes disaient « Il est génial, il a un vrai projet, il est le seul, tout est construit, c'est courageux, mais il n'a aucune chance. » Et à partir du moment où il a commencé à avoir des chances, et pire, où il a gagné, à ce moment-là, mais qu'est-ce que c'est que ce projet ? Il est radical, il va nous conduire dans le mur, il va le faire se lever les Français en masse. Ça m'avait beaucoup marqué, un tantinet amusé, parce que je trouvais que le jeu était un peu curieux. Il n'y a rien dans cette campagne présidentielle qui ressemble à aucune autre campagne présidentielle. Bon, je ne suis pas un vieillard chenu, mais il se trouve que je me suis engagé dans la vie politique très jeune, à 16 ans, à l'occasion de la première élection présidentielle au suffrage universel en 65. Hein, et j'ai eu ce grand bonheur, tout gamin, de faire la campagne du général de Gaulle en 1965, avec les grands anciens. C'était une époque...
Vous diriez qu'il avait plus de relief qu'aujourd'hui ?
Aujourd'hui révolue, mais qui avait...
Et moins de chaînes de télévision.
Qui avait ses charmes. Hein, et c'est vrai que depuis 50 ans, je n'ai jamais connu et rencontré un contexte comme celui d'aujourd'hui, c'est
oui,
clair.
Oui, j'imagine, effectivement, pour vous, ça doit quand même être assez pénible. Alors, on a pu voir depuis hier, au-delà des réactions, le fait que François Fillon est quand même lâché par un certain nombre de personnes de son propre camp, hein, je dis bien. Il y a assez peu de commentaires, voilà, de petites phrases auxquelles on pouvait s'attendre parmi ses opposants. Mais au fond, le regard se porte plus pour ceux qui, dans son camp, je pense évidemment à Bruno Le Maire et un certain nombre de personnes qui étaient proches de lui, aussi certains proches de Juppé, certains même proches de Sarkozy, hein, je pense à Catherine Vautrin, entre autres, qui l'ont lâché. Ça va quand même pas être facile de faire campagne.
Bon. Nier ce que vous venez d'exprimer serait un peu fou, bon, et je ne le ferai pas. Bon, la position de Bruno Le Maire et de tous ceux, parce que nombreux parmi ceux dont vous parlez étaient aux côtés de Bruno Le Maire et donc font corps avec ce que Bruno Le Maire a décidé de faire, bon, je le constate, je le respecte, parce que je n'ai nulle intention d'ajouter des difficultés aux difficultés, mais je le regrette. Hein, parce que à partir du moment où il a été acté de manière extrêmement claire au sein de toutes les composantes de la représentation parlementaire de notre famille politique, que la candidature de François Fillon devait aller jusqu'à son terme, il est un peu regrettable que cet engagement collectif ne soit pas tenu par certains. Mais vous aurez également remarqué, et d'ailleurs c'est assez paradoxal avec tout ce qui est dit par ailleurs, que hier, lors de la première publication des parrainages adressés au Conseil constitutionnel, le nombre de parrainages obtenus par François Fillon dès le premier jour a dépassé les 750, ce qui est considérable, alors que, je ne dis pas que d'autres sont à la peine et n'y parviendront pas, parce que bien évidemment, les
oui,
entre
le
guillemets
jour,
grands
hein.
candidats y parviendront, mais il y a quelque chose malgré
Est-ce
tout.
Est-ce qu'on peut revenir d'ailleurs sur un parrainage? Je me suis posé la question. Est-ce qu'un quelqu'un qui a parrainé un candidat peut dire « je retire mon parrainage »
À ma connaissance, non. Je ne me suis jamais véritablement posé la question, mais je ne serais pas affirmatif. Je ne le pense pas. Donc, ces parrainages sont nombreux, ce qui n'est pas une surprise. Ils vont continuer à être nombreux. Et moi, je voudrais vous inviter à entendre ce que nous disent et ce qu'expriment beaucoup de gens au sein de notre population. Moi, je reçois quelques messages, mais pas tant que ça, de gens m'agressant, entre guillemets, par écrit ou par oral pour la position qui est la mienne, d'être aux côtés de François Fillon et de continuer à l'être dans la situation actuelle. J'en reçois très peu et je réponds systématiquement à tous ceux qui m'adressent ces messages. Par contre, je reçois énormément de messages, de coups de fil, de textos, de courriers électroniques, hein, de Français que je connais et d'autres que je ne connais pas, qui me disent « nous ne voulons pas nous faire voler cette élection parce que nous avons été plus de 4 millions à participer à la primaire de la droite et du centre. Nous avons été près de 3 millions à vouloir que François Fillon soit notre candidat et devienne notre prochain président de la République. Et compte tenu du contexte qui veut que nous sommes dans les 15 jours de la phase essentielle des parrainages, allez-y, ne renoncez à rien, l'essentiel c'est la France, l'essentiel c'est la nécessité de remettre la France sur de bons rails, et le seul capable de le faire c'est François Fillon.
Enfin, on peut pas nier que, vous pouvez pas nier, on voit bien dans les enquêtes d'opinion, hein, alors vous pouvez toujours les contester, généralement on les conteste quand c'est comme ça, il y a eu un mouvement qui fait que François Fillon était au-delà de 30% hein, après la primaire, hein, 32-33% même dans certains sondages, il est tombé dans certains sondages à 17,5% avant les révélations d'hier, il était plutôt autour de 20% des voix. Il y a eu une perte, il y a eu une déperdition. Un tiers des personnes qui envisageaient de voter François Fillon, aujourd'hui, je ne dis pas d'ailleurs qu'ils votent pour un autre, peut-être sont-ils dans la nature, hein, mais en tout état de cause, il y a eu une déperdition. Et puis la deuxième remarque que je voulais vous faire, c'est marrant, quand on est dans l'impasse, il y a une forme de naïveté chez le politique. Une forme de naïveté, par exemple, vous avez dit quelque chose de tout à fait intéressant sur les phases pour François Fillon. Il est adulé, et puis ensuite on le critique, et puis après on y vigile. Or, vous devez connaître l'adage, on dit « il lèche, il lâche, il lynche ». Or, à chaque fois, on a beau répéter effectivement que ça se passe toujours comme ça et que les politiques ont tout intérêt à être prudents chaque fois dans leur démarche et dans leur accueil à la fois de ce qu'ils ont, aussi bien dans les médias que dans les sondages, on a le sentiment qu'il y a une forme d'imprudence, imprudence qu'on retrouve même dans leur quotidien. Dans les faits reprochés à François Fillon, on se dit qu'il y a eu surtout et avant tout énormément d'imprudence.
Alors, sur la première chose, bon, je n'ai jamais nié, et je ne prétends pas le faire, ce tassement dans les sondages, mais en sens inverse, vous noterez que ça n'est pas un écroulement comme on aurait pu le craindre. Il aurait pu se trouver que plus de la moitié de l'électorat de notre camp se désolidarise très nettement du candidat, ce qui aurait complètement modifié la donne. Dans certains sondages, vous avez évoqué 17, 17,5, c'était le plancher. Et nous sommes aujourd'hui autour de 20, 21. C'est-à-dire que nous sommes à 2, 3, 4 points maximum de ce qui est prêté aujourd'hui à Emmanuel Macron. Vous savez d'abord quelles sont les marges. Et puis ensuite... Vous savez que 1 ou 2% en moins pour l'un et 1 ou 2% en plus pour l'autre, ça renverse facilement les choses. Donc, bien sûr qu'il y a eu un effet incontestable, important, mais non décisif hein, dans l'esprit des Français. Et ça, je crois qu'il faut que vous, commentateurs, analystes, présentateurs, en charge de la formation de l'opinion, d'une certaine manière, hein, et vous assumez la plupart du temps très bien cette responsabilité, vous devez également prendre ça en compte. Bon, sur la naïveté, je ne suis pas naïf. Par contre,
c'est pas une critique, hein, c'est peut-être un compliment.
C'est comme ça que je l'ai pris, parce que je prends note également de votre aveu. De votre aveu.
Non, c'est mon constat.
Non, l'aveu, je lèche, je lâche, je lynche, c'est l'aveu peut-être d'une volonté que j'enregistre, mais sur laquelle il faut s'interroger, de la part de la presse, de piloter le jeu.
Elle n'est pas de moi, d'ailleurs, ce n'est pas un aveu de ma part. C'est Nicolas Domenac qui avait d'ailleurs dit ça autrefois.
C'est l'aveu...
C'est la règle.
C'est l'aveu du champ des commentateurs dont vous faites partie.
J'ai l'honnêteté de le dire.
Qui ont... Et je vous en remercie et je vous en félicite, mais qui ont cette volonté de diriger le jeu. Si vous orientez... Vous savez, je réponds toujours aux questions qui me sont posées. Je ne refuse jamais d'y répondre. Mais là, pour le coup, je ne suis jamais naïf et je suis le premier, quelquefois, décrypter ce qu'il y a derrière la question et non pas à faire comme Marchais qui disait « c'est votre question et ça, c'est ma réponse », mais quelquefois à me permettre de rectifier la question pour que la réponse soit véritablement à la hauteur de ce que les Français souhaitent savoir. Et j'ai un reproche, mais il est amical et républicain en direction de mes amis les journalistes, c'est que quand un journaliste dit « oui, mais ce que les Français veulent savoir, c'est ça », je ne sais pas ce qui permet à un journaliste de prétendre, dans son questionnement, représenter les Français.
Alors, il y a une chose que moi, je veux savoir, et comme Philippe Méchet, le temps presse un peu, vous vouliez parler des rapports entre la droite et l'écologie.
Absolument, si la droite et l'environnement, puisqu'on peut en profiter de Guy Geoffroy, qui est président des Écomaires, et justement qu'il nous dise un petit peu quelle est l'approche aujourd'hui environnementale dans le programme de la droite. Il faut quand même qu'on parle un peu programme. Le programme de la droite, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui finalement occupe une place, je dirais, un peu nouvelle dans ce qui peut être fait en faveur de l'environnement.
Alors, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on n'en a pas le temps, et puis ça serait très ennuyeux. Mais deux remarques. La première, il y a bien longtemps, et les Écomaires en sont un exemple, que l'écologie politique et ce qu'on a appelé maintenant le développement durable sont inscrits en toile de fond de toutes les politiques publiques, notamment locales, qu'elles soient menées par des élus de droite, de gauche, du centre, de nulle part et d'ailleurs. Bon. Et d'ailleurs, les Écomaires ont été créés à l'origine par Laurent Fabius dans la volonté qu'il n'y ait pas l'exclusivité d'un mouvement politique qui s'arroge la promotion et la défense de l'environnement. Et j'en suis un héritier. Mon prédécesseur Dominique Jourdain, qui était maire socialiste de Château-Thierry, avait été élu à l'unanimité président des Écomaires.
Je dois préciser que c'est interpartisan.
Voilà. Et je l'ai été également. Mon premier vice-président, président délégué et un maire socialiste Lamarre, de Vitry-le-François, qui est un garçon délicieux et compétent. Donc l'écologie n'est plus, depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense, l'apanage d'un parti. Deuxième remarque, ça ne vous aura pas échappé que... Et il n'y a pas qu'en cette matière d'ailleurs, mais en matière d'écologie, les grandes lois sont issues de gouvernements qui n'étaient pas particulièrement de gauche. Qui était Premier ministre lors de cette aventure qui est une véritable épopée très positive du Grenelle de l'environnement? C'est François Fillon. Hein, et donc, la droite et le centre ont une vocation naturelle, à l'instar de toutes les autres forces politiques républicaines de notre pays, à prétendre, proposer pour l'avenir de la planète et pour les grands équilibres écologiques, environnementaux et sociaux de notre pays, des stratégies qui d'ailleurs ne sont pas si différentes les unes que les autres que cela. Bon. On voit bien que sur la question du nucléaire, la version officielle de la gauche est très ambiguë, parce qu'on a au sein du Parti Socialiste, je n'hésite pas à le dire, autant de, d'élus favorables au nucléaire que d'élus qui sont hostiles. Et là, c'était un arrangement politique entre le Parti Socialiste et les écolos, hein, pour ce qui a été décidé en matière de nucléaire. On voit que sur beaucoup de sujets, il y a par contre un véritable accord. Hein, je me souviens que dans le cadre du débat auquel j'ai participé sur la loi de transition énergétique et écologique, nous n'avions pas que des points de désaccord. Nous avions un sujet qui était celui du nucléaire, et sur tout le reste, hein, les choses pouvaient avancer ensemble. Donc,
d'ailleurs, votre premier vice-président dont vous parliez, je crois Jean-Pierre Bouquet, n'est pas spécialement favorable au nucléaire.
Ah oui, tout à fait. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'entrée exclusivement revendiquée par certains de l'environnement pour la définition d'un projet politique global n'a plus de valeur aujourd'hui. Il y a bien longtemps que les élus locaux, quel que soit leur bord politique, ont réalisé, hein, ce qu'avait prédit un de vos confrères il y a plus de 40 ans, Michel Péricard, hein, qui avait créé avec la France défigurée, hein, la véritable, hein, promotion de la défense de l'environnement. Hein, il y a bien longtemps que tout ceci est naturellement l'apanage de personne et la responsabilité de tous.
Merci Guy Geoffroy.
Merci Guy Geoffroy d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe Méché, merci Luce Perrot. Brièvement, les coordonnées de l'Assemblée pour les gens qui ne les connaîtraient pas.
Non, 33, quelle entrée ? Assemblée nationale, 33 Quai d'Orsay à Paris.
Un grand bâtiment avec des colonnes.
C'est pour la journée du livre poétique, 26e édition, après-demain samedi. Je vous retrouve dans deux minutes pour le rappel des titres.
Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.